Chapitre 6. Leur langage te fascinerait, dit Ali à son père au cours du petit déjeuner. Il est mathématique. Il utilise 64 couleurs, dont 51 alphabétiques. Les autres permettent de clarifier la pensée. C'est un système plein d'élégance.
Ces choses m'échappent. Ta mère est la linguiste de la famille. Si je lis l'allemand, mon accent est vraiment lamentable.
Bonjour tout le monde, dit Nicole en s'étirant dans son lit. Qu'y a-t-il au menu?
Des légumes, si ce ne sont pas des fruits.
Où est Éponine? Elle est allée préparer ses bagages. Elle ne souhaite pas prendre part à l'entretien prévu pour ce matin.
Pourquoi?
Les sujets seraient-ils choquants? J'ignore comment vous réagirez. Puis-je annoncer à Archie que nous sommes prêts?
Et quand l'octopode se fut assis avec eux, Ali se chargea de traduire son préambule, en hésitant parfois. Archie pria Richard d'excuser ses cousins pour la façon cavalière dont il l'avait traité quelques années plus tôt. Il expliqua que les octopodes rencontrés par les humains dans Rama 2 appartenaient à une branche différente et dissidente, sans point commun avec ceux actuellement à bord. Ce groupe inférieur avait débarqué lors de l'arrivée de la colonie désignée pour représenter leur peuple, mais il avait laissé des archives. C'était ainsi que les siens avaient appris ce qui était survenu à Richard.
Puis-je poser une question ?
Demanda Nicole.
J'ai cru comprendre que vous aviez embarqué pendant que nous étions en hibernation. Étiez-vous informé de notre présence à bord ?
Archie répondit qu'il supposait simplement que des humains vivaient sur le continent boréal et qu'il n'en avait obtenu la confirmation que lorsque les hommes s'étaient infiltrés dans l'habitat voisin. Puis Ali déclara
« Afin de gagner du temps, je vais vous dire le reste. Les archives des dissidents indiquent qu'ils ont procédé sur Richard à des expériences proscrites au sein des colonies qu'Archie qualifie de développées. L'une d'elles consistait à saturer son cerveau de microbes chargés d'effacer tout souvenir de ce qui s'était passé au cours de son séjour. Mais l'expérience la plus audacieuse comportait une altération de sa semence. Il ne connaissait pas plus que nous la mission de Rama et il pensait que nos espèces devraient cohabiter pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Il jugeait essentiel que nous puissions communiquer. Voilà pourquoi ils ont altéré les chromosomes de ton sperme, papa, afin que tes enfants différencient mieux les couleurs et aient une plus grande facilité à assimiler leur langage. En bref, ils m'ont génétiquement modifié pour que je devienne leur interprète.
Elle s'interrompit. Tu serais une sorte d'hybride, sans qui Richard ?
Dans une certaine mesure,
fit-elle en riant pour dissiper la tension.
Seule une infime partie de mon génome a été altérée. À ce sujet, Archie et ses collègues souhaiteraient avoir des échantillons de sang et de cellules de mes deux parents, afin d'obtenir la confirmation que je suis le résultat d'une manipulation génétique et non d'une union normale. Ils se demandent si mes dons ne sont pas le simple fruit du hasard.
Est-ce important, dès l'instant où tu peux servir d'intermédiaire entre nous ?
Je m'étonne que tu poses cette question, papa. Ils sont comme toi, fascinés par la connaissance.
Entendu,
dit Nicole. Après une brève hésitation.
C'est d'accord. Et ça ne change rien au fait que tu es ma fille et que je t'adore. Je suis certaine que ton père se fera à cette idée lorsqu'il aura eu le temps d'approfondir la question.
Elle sourit à Archie, qui répondit par une bande cramoisie et des ondes bleu cobalt et jaune vif. Ce qui signifiait « merci » dans son langage. Le lendemain matin, Nicole regretta de ne pas avoir demandé des renseignements complémentaires avant de se porter volontaire. Après le petit déjeuner, Archie et deux de ses congénères vinrent les rejoindre. Ali leur présenta le docteur Bleu, qui précisa ce qu'il attendait d'eux.
Il voulait simplement obtenir de Richard la confirmation de ce qu'il avait subi au sein de la colonie dissidente. Mais les archives ne contenaient rien concernant Nicole et les examens pratiqués sur Ali indiquaient qu'au sein de l'espèce humaine, les caractéristiques génétiques dépendaient principalement de la mère. Le médecin voulait procéder à des sondages. Il souhaitait par exemple envoyer une douzaine de créatures spiralées, grosses comme des aiguilles, récolter des informations à l'intérieur de son corps. Nicole recula de dégoût quand le médecin lui présenta un sac dans lequel grouillaient ces choses visqueuses.
« Vous pouvez relever mon code génétique dans toutes mes cellules »
protesta-t-elle.
« Je... »
Un chapelet de couleurs vives l'interrompit.
« Nos techniques de décodage du génome sont moins avancées que les vôtres. »
traduisit Ali.
« Nous avons besoin d'échantillons prélevés dans divers organes et sous-systèmes biologiques. »
Il la remercia de nouveau pour sa coopération et termina par les bandes bleu cobalt et jaune vif qu'elle avait appris à interpréter. Puis, il lui expliqua que les petites vrilles foreraient son épiderme pour entrer dans son corps où elle séjournerait une demi-heure. Et quand l'octopode en posa une sur son bras, Nicole ne put s'empêcher d'avoir un mouvement de recul. Puis, on lui demanda de s'allonger sur le dos et le médecin lui montra deux petites créatures à huit pattes, l'une rouge et l'autre bleue, grosses comme des drosophiles.
« Quand les vers atteindront vos organes internes, la sensation sera désagréable, »
dit le docteur bleu par l'entremise d'Ali.
« Si vous le souhaitez, ces bestioles pourront alors vous anesthésier. »
Moins d'une minute plus tard, elle ressentait une vive douleur dans la poitrine. Elle pensa qu'une des spirales se ferait un passage dans un des ventricules de son cœur et grimaça. Le docteur bleu posa les deux insectes anesthésiants sur son cou et elle sombra aussitôt dans un état intermédiaire entre l'inconscience et l'éveil. Elle continuait d'entendre les explications d'Ali, mais ne percevait plus ce qui se déroulait à l'intérieur de son être. Brusquement détendue, elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle avait 10 ans et pleurait aux côtés de son père pendant que les flammes consumaient le cercueil de sa mère comme il seyait à la dépouille d'une reine des Sénoufos. Un vieillard, son arrière-grand-père Homais, affublé d'un masque terrifiant pour chasser les démons qui voudraient accompagner la défunte dans l'au-delà, vint la prendre par la main.
« Les prophéties l'avaient annoncé, Renata !»
lui dit-il en utilisant son nom Sénoufo.
« Tu as disséminé notre sang parmi les étoiles !»
Le masque bariolé du chaman se transforma et elle revit le docteur bleu. Elle entendit de nouveau la voix d'Ali.
« Ma fille est un être hybride. Elle est plus qu'humaine. » Elle est la première représentante d'une nouvelle espèce.
Son esprit repartit à la dérive. Elle était un oiseau qui survolait la savane de Côte d'Ivoire. Elle tourna le dos au soleil et se rua comme une fusée vers les ténèbres et le vide de l'espace interstellaire. Elle vit le visage d'Homais qui lui cria
« N'oublie pas, Renata, tu es l'élue !»
Pouvait-elle le savoir? Il y a si longtemps, là-bas, en Afrique. Si la réponse est oui, par quel moyen? Existe-t-il une dimension parallèle où on peut voir l'avenir?
Richard et Nicole étaient seuls dans la pénombre. Les autres venaient de sortir afin de préparer leur départ. « Tu n'as presque rien dit toute la journée », fit-il remarquer.
Je pensais à mes parents, à Homais, à mes visions.
As-tu été surprise par les résultats des tests?
Pas vraiment. Il nous est arrivé tant de choses. Je me rappelle la conception d'Ali. Tu n'étais pas encore redevenu toi-même.
J'en ai longuement parlé avec Ali et Archie pendant que tu dormais. Les altérations de notre fille sont irréversibles. Nikki doit posséder les mêmes caractéristiques qui se dilueront à la génération suivante. Il bâilla et ne termina pas sa phrase.
Richard, te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur les chroniques Xénouphos? Sur cette fille d'une reine qui, selon les prophéties, porterait le sang de la tribu jusqu'aux étoiles.
Vaguement, nous en avons parlé il y a longtemps.
Omet était convaincu que j'étais cette femme. Peut-on d'après toi connaître l'avenir?
Il rit. Tout obéit à des lois que nous devrions pouvoir exprimer sous forme d'équations différentielles, à condition de disposer de toutes les données sur une situation à un moment précis. Il serait alors possible de prévoir ce qui en résultera. Mais nos connaissances sont imparfaites, et le hasard réduit le champ d'application de ces techniques de projection.
Suppose que des individus ignorent les mathématiques, mais perçoivent d'instinct les lois dont tu parles. Pourrait-il trouver intuitivement la solution d'une partie de l'équation?
C'est possible, mais difficile à croire.
Je sais, je m'interroge sur la destinée. Est-ce un mythe forgé après coup ou une réalité? Et en admettant que cela existe, comment les lois de la physique pourraient-elles l'expliquer?
Je ne te suis plus, ma chérie.
Ça me dépasse également. Suis-je ce que je suis parce que, comme l'affirmait Homais, il était écrit que je voyagerais dans l'espace? N'est-ce pas plutôt la conséquence de mes choix et de mes capacités que j'ai moi-même développées?
Richard rit de nouveau. Tu rouvres le vieux débat entre la prédestination et le libre arbitre.
Ce n'était pas mon intention. Mais je ne peux m'empêcher de croire que rien de ce qui m'est arrivé n'aurait surpris Homais.